wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sally Bonne et Stéphane Coréard à notre affiche d'Oramar au Centre Pompidou, Manuscrit de l'extrême à la Bibliothèque Nationale de France, John Cage à la Galerie Thaddeus Ropac et puis un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'écriture du réel, Baudelaire et le réalisme sculptural d'Arnaud Boux chez Galilée. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition consacrée à Doramar au Centre Pompidou, l'occasion d'en savoir plus sur celle qui est le plus souvent, bien trop souvent, présentée comme une des muses de l'ogre Picasso. À travers pas moins de 500 œuvres et documents, l'exposition montre la palette de cette photographe et peintre qui a traversé le XXe siècle. Les commissaires en sont Damaris Amao, Carolina Zibienska, Lewandowska, avec la collaboration d'Amanda Maddox. Scénographie signée Camille Excoffon. Une première impression sur cette exposition, Sally Bonne.
Une exposition, je dirais, déséquilibrée, mais très riche dans son ambition de sortir Doramar de son statut de muse et de compagne de Picasso, entre autres.
Corinne Rondeau.
C'est pas mal, mais...
Mais
je ne suis pas tout à fait convaincue.
Stéphane Coréard.
Je dirais que c'est une rétrospective trop grande pour une artiste très moyenne.
On développera tout ça dans un instant après avoir écouté une archive furtive, datée d'août 93. C'est dans une émission qui s'intitulait « De Guernica à Guernica, histoire du tableau », une émission de France Culture signée Eliane Millot et Robert Grelier. On va entendre, tendez l'oreille, Doramar expliquer que Picasso lui avait dit l'avoir représenté dans Guernica, sous les traits de la femme qui pleure, et que le taureau représente le peuple espagnol. Tendez l'oreille.
Il a dit, le taureau c'est le peuple espagnol, et alors il m'a dit, le personnage à l'extrême droite c'est vous. Ce sont les seules explications qu'il ait données, et je lui ai dit, et l'oiseau, que représente l'oiseau, alors il n'a pas répondu. Il n'a rien dit, il n'a donné aucune explication. Ce qui est important, c'est que le taureau, c'est le peuple espagnol.
C'est le peuple espagnol. Voilà, c'était juste pour quand même l'entendre aussi, Doramar. Alors, avant de vraiment entrer dans cette dispute, d'échanger vos arguments, nos arguments, Corinne Rondeau, savoir comment cette exposition est conçue, son parcours, son accrochage.
Mais c'est un accrochage qui est chronologique. C'est un accrochage. La scénographie est sobre, voire austère. Malheureusement austère, d'ailleurs, je dirais, parce qu'au bout d'un moment, elle est pesante. Et donc chronologique, parce que voilà, on la prend là où elle a commencé à faire ses études, à la fois le comité des dames et en même temps l'école technique de photographie et de cinématographie de la ville de Paris, où elle va rencontrer notamment celles qui vont être sur ses photos, Jacqueline Lamba notamment. Et puis on est pris par un dispositif qui est pas inintéressant dans l'exposition, ce sont de grands diaporamas. On voit donc en très grand format ces photos, puis évidemment les photos, puis les photomontages, la salle Picasso, voilà. Et puis on continue avec tout ce qui va être après Picasso, car il y a un avant et un après tout de même, à savoir quelque chose que je qualifierais entre guillemets d'expérimental, et qui est une forme de travail très éclaté, qui rejoint un certain type de technique qu'elle pouvait avoir auparavant dans la photo, qui était solarisée, ou bien de superposition ou de grattage. Donc là, on va avoir plutôt de l'abstraction, de la peinture, le retour de la peinture, qui était déjà à ses débuts, mais qu'elle avait abandonné. Et on voit dans l'exposition, dans une très grande ligne, on va dire, dans cette chronologie, on voit l'affirmation photographique des corps et pour les corps, et voir le genre aussi, parce qu'elle a, elle a pas qu'une ambiguïté, elle a une affirmation de ce rapport bipolaire, je dirais. Et puis à la fin, on a plus de corps. Voilà, c'est la grande ligne. C'est après Picasso, je dirais, le retour de la peinture, c'est à la fois un autoportrait qui est atroce d'elle. Et ensuite, une absence de corps, mais une application matérialiste, enfin, dans le travail du grattage, du négatif, etc., etc.
Merci pour cette vision, de cette ligne de l'exposition, ce qui nous permet d'entrer vraiment dans la discussion critique. Alors peut-être avec un avis, peut-être le plus positif, si j'ai bien compris, celui de Sally Bonne, pour commencer.
Positif dans la première partie d'exposition, parce qu'il y a une grande richesse de son travail dans toutes les années 30. Et d'ailleurs, le déséquilibre dont je parlais, il est lié à l'importance, en fait, de tout le travail qui est montré et qui se tient sur une bonne dizaine d'années. Et finalement, les 30 dernières années de sa vie qui, en fait, sont représentées que dans quasiment une seule salle ou les deux dernières salles. Donc ce déséquilibre-là, il est un peu troublant. Mais en revanche, la richesse de cette première partie du travail est quand même assez considérable, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord une première chose, c'est une absence totale de hiérarchie entre différentes formes d'images et de représentations. C'est-à-dire qu'il y a la photographie de mode, la photographie de publicité, des expérimentations, ainsi que Corinne a évoqué, c'est-à-dire des grattages, la corrosion sur le négatif, etc. Et tout ça, en fait, est dans un rapport d'équivalence totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail supplémentaire sur les photographies qui seraient destinées aux magazines ou à des publicités, ou qui feraient partie de son propre travail d'artiste, puisqu'il y a cette revendication-là. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, cette espèce d'absence de hiérarchie, et qui donne aussi lieu à des images de publicité qui sont très étonnantes, parce que tout d'un coup on voit un portrait de femme assez les images sont assez simples, il y a une espèce de côté un petit peu abrupt dans la manière de représenter, dans la composition, il y a des angles particuliers, il y a des jeux d'ombre très importants, et en même temps jamais les images sont jamais totalement lisses, et cette absence de lissage entre guillemets des images, elle est aussi liée à l'incorporation de peinture par exemple dans une image de publicité qui entoure le visage presque parfait, ça veut rien dire, mais en tout cas très bien représenté d'une femme pour vendre, je sais pas, une ombre solaire ou un shampoing. Donc ce rapport-là, il est particulier, et il y a effectivement cette richesse du travail. Ensuite,
alors peut-être qu'on garde le ensuite pour un deuxième temps, si vous voulez bien, c'est bon pour continuer à faire tourner la parole et la donner maintenant à Stéphane Coréard, qui, après cette première petite phrase, semble le moins convaincu. En tout cas, vous disiez surdimensionné. Grande expo pour petit artiste, j'exagère un peu.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'un grand conservateur de la photo, spécialisé dans la photo, quand on lui a dit qu'il y aurait une rétrospective de Ramar, il a dit qu'il n'y a pas de quoi faire plus de 300 mètres carrés, et là, je crois qu'il y en a 2000.
Donc, il n'y a pas que de la photo, vous l'aurez noté.
Il y a de la photo sur 1500 mètres carrés. Ouais. Donc, à mon avis, c'est vraiment beaucoup, et c'est dommage, parce que c'est la première, à ma connaissance, rétrospective d'une artiste surréaliste femme au Centre Pompidou. Il y en a quand même des très grandes. Il y a Lenora Carrington, il y a Meret Oppenheim, il y a Dorothea Tanning. Donc, je trouve que c'est beaucoup d'honneur. Ce Centre Pompidou, en plus, est connu pour faire une place souvent faible aux femmes, notamment aux femmes surréalistes, hein, c'était un des reproches qu'on avait fait à l'exposition La Révolution surréaliste en 2002. Donc, bref, il y avait du rattrapage à faire. Alors, pourquoi Dora Maar? Alors, on nous jure, évidemment, la longueur de texte, que ça n'est pas parce que c'est la muse de Picasso. Néanmoins.
On y croit moyennement. Bah,
néanmoins, on peut même constater que le catalogue, la première image du catalogue, c'est son portrait par Man Ray. Donc, c'est quand même clairement une muse, disons. Et la salle Picasso, évidemment, est au centre. Et à mon avis, elle dit déjà beaucoup de choses, puisqu'il y a, à la fois un très beau portrait de Dora Maar par Picasso, une toile et quelques gravures absolument sublimes, mises, c'est cruel, côte à côte avec des pastiches cubisants de Dora Maar. Et là, on voit toute la différence entre Picasso, un peintre de l'envergure de Picasso, et Dora Maar. Mais surtout, il y a effectivement ce grand diaporama qui sont les fameuses images que Dora Maar a prises dans le grenier du Quai des Grands Augustins du tableau Guernica en train de se faire, qui ont un grand intérêt quand on s'intéresse à l'œuvre de Picasso, mais qui n'ont aucun intérêt artistique. Ce sont des images d'une pauvreté totale où il n'y a absolument rien de Dora Maar. Donc pourquoi faire une salle avec ça? Pourquoi faire un immense diaporama?
Pour montrer que c'est elle qui a documenté la conception.
Et donc cette ambiguïté, elle est présente partout. D'ailleurs, dans les premières salles photo, surréaliste, photomontage, etc., il y a systématiquement des œuvres d'autres artistes qui sont en général bien mieux. On se rend compte effectivement que Dora Maar a fait tout comme tout le monde, après tout le monde, et plutôt moins bien que tout le monde. Ce qui, moi, me dérange considérablement. Par exemple, dans la salle surréaliste, je suis désolé, il y a des cadavres exquis auquel elle n'a pas participé, donc je n'ai pas compris ce que ça venait faire là. Il y a des collages de Max Ernst, et là aussi c'est cruel pour Dora Maar, et pareil pour les photomontages. Donc je trouve qu'effectivement l'intérêt de cette exposition ne me paraît pas vérifié, surtout que la peinture, la deuxième partie, est carrément alors là catastrophique, et là c'est vraiment après tout le monde, et elle reprend des techniques surréalistes dans les années 70,
on y revient dans
qui ont été épuisées dans les années 30.
Corinne Rondeau.
Faut-il sauver Dora Maar ? Je dirais après cette... écoutez, vous êtes trop dur, Stéphane. Non, je crois que... Bon, moi, je la tiens pour une très grande photomonteuse. J'étais très heureuse de voir toutes ces photographies de mode parce que elles ne correspondent pas à de la Germaine Krull, on est d'accord, c'est pas du tout le même type de photo. Vous parliez des surréalistes. Je pense que tout de même, elle est dans le projet surréaliste. Le photomontage, c'est quand même obtenir une sorte de réalité plus grande encore que le réel. Et je trouve que cette manière qu'elle a d'utiliser la photo comme fond, créant une profondeur, une perspective, sur laquelle ensuite elle va simplement mettre quelque chose. Hein, c'est pas, ça crée vraiment un élément plus que de rêve, c'est un cauchemar. Je trouve que ces photomontages sont très forts parce qu'ils ont une vraie insistance. Et comme ces photos de mode, ils ont une vraie insistance. Mais ça se joue pas simplement au motif qu'on est en train de regarder. Je pense à la photo Assia, par exemple, une femme nue debout. Et c'est l'ombre qui se projette à côté, qui a une monstruosité. Elle est énorme. Elle a une déformation. Enfin, il y a dans le premier diaporama qu'on voit, on voit une femme qui est nue, et puis l'image d'après, c'est la même, mais habillée en costard, comme un garçon. Et je dirais que là, elle est dans la photo de mode. Elle est dans une recherche, effectivement, peut-être une qualité formaliste même du côté de la beauté cliché pour tout ce qu'elle fait, la publicité ou la mode, etc. Et je trouve qu'elle est à sa place. Et je trouve que par ailleurs, elle a une vraie prétention photographique dans le cadre qui est la mode ou qui est la publicité et aussi sa présence dans le groupe surréaliste. Je veux dire, toutes les femmes surréalistes quand même ont été maltraitées. Et de toute façon, les mecs avaient besoin de leur muse. Donc, on peut pas reprocher à une femme de son époque d'être la muse alors que c'est quand même une femme qui, comme d'autres d'ailleurs, ont essayé d'être ailleurs ou à côté, d'avoir aussi une activité artistique comme Jacqueline Lamba, par exemple, qu'elle photographie par ailleurs. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus faire trop le procès d'une femme qui a été à son endroit, qui a été aussi une femme ayant une personnalité particulière. C'est la raison pour laquelle le début de l'exposition la montre Henri-Georges Clouzot, qui était le cousin de Marianne Clouzot, qui a fait son portrait en peinture, parce qu'elles ont fait la même école, la même formation du comité des dames ensemble. Il se sert d'elle comme une photographe homosexuelle dans Quai des Orfèvres. Donc tout de suite, on nous a présenté dans l'exposition une certaine femme d'une certaine époque, ayant une sorte d'indépendance, de caractère, ayant été à la fois pas communiste, mais très à gauche, s'impliquant avec Bataille et Breton. Donc il y a quelque chose, et puis après, effectivement, il peut y avoir des faiblesses qu'on retrouve. Après Picasso, je veux dire, bien sûr, mais ça c'est les commissaires aussi, de mettre de la peinture, de Dora Maar qui disait, il m'a fait femme, Dora Maar qui pleure, la femme qui pleure, ce n'est pas moi, ses portraits ne sont que des mensonges, aura-t-elle dit. Bon, mais peut-être veut-elle aussi rattraper quelque chose d'elle à l'intérieur d'une vie de couple. D'ailleurs, le début de sa carrière, c'est avec Kéfer. C'est-à-dire, comme si elle avait besoin de travailler à deux. On peut pas reprocher aux gens d'avoir envie d'être dans des relations de couple, de travail. Là, elle est tombée sur le type qui l'a démonté bien et déboulonné. Bon, sauf que elle a préféré être déboulonnée que de continuer à faire la photo. C'est son problème aussi. Et je suis d'accord avec vous que c'est extrêmement faible à la fin.
Alors, revenons-y, ça dit bonne. Ensuite.
Oui, ensuite. Non, ensuite, parce qu'il y a effectivement toute cette partie du photomontage, du surréalisme, donc dans son inscription. Et d'ailleurs, c'est aussi, cette partie du surréalisme, c'est aussi un portrait de toute la période, des gens avec qu'elle voit. Effectivement, on voit Breton, on voit Éluard, on voit Nuche-Éluard, on voit Jacqueline Lamba, on voit Léna Rubinstein, Léonore Fini, Dolores Miró. Donc, il y a aussi ce portrait d'une époque, mais elle fait pas que ça. Et avant qu'elle se remette à la peinture, elle se remet à la peinture, en fait, parce qu'elle démarre comme peintre, elle se prend de de passion pour la photo, et puis elle revient à la peinture. Mais avant ce moment de retour à la peinture, il y a quand même cette période où elle est, après avoir été photographe de mode, de pub, etc., elle est photographe de rue, elle va en Espagne, elle va à Londres, et indéniablement, il y a un regard particulier quand même. Elle est pas juste simplement là, elle est effectivement, Corinne a raison, elle est dans son époque, et non seulement dans son époque, mais elle apporte quelque chose qui est dans une sorte de logique aussi par rapport à son travail d'élaboration, dans la composition de ses images. Et je trouve que les portraits, cette espèce de parfois de crudité ou presque de nudité, des portraits de rue, de mendiants à Londres ou à Barcelone, sont aussi une espèce de force intéressante.
Alors juste pour relancer, Stéphane Corrière, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, elle a tout fait, mais après tout le monde est moins bien que tout le monde, sauf qu'elle, elle fait tout justement. Moi, c'est ça que j'ai aussi trouvé assez passionnant dans l'exposition. Voilà, on a dit ce travail photographique qui est à la fois du studio, de l'expérimentation, de la pub, de la photographie de rue, de la photographie de studio. Il y a peu de gens qui font autant de choses qu'elle. Alors peut-être que vous trouvez qu'elle le fait moins bien. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'images qui restent dans l'œil et dans l'esprit après l'exposition.
Alors effectivement, c'est peut-être par moment bien fait. Ce qui me gêne, par exemple, dans toute la photo de mode, la photo publicitaire, c'est qu'il n'y a aucune transgression, aucune ironie, aucun déplacement. On voit d'ailleurs, il y a un mur avec les pages de magazine que ça illustre. Je veux brunir pour lui plaire. Donc il n'y a même pas un point de vue féminin qu'on attendrait peut-être plus décalé. Je voudrais donner un autre exemple. Il y a dans les surimpressions.
Vous lui en demandez beaucoup là quand même. Hein.
La
subversion dans les pages de pub.
Je pense que Man Ray, justement, qui est quand même, on pense beaucoup à Man Ray dans cette partie de son travail. Je suis désolé, c'est autre chose. Il y a cette photo qui s'appelle Les années vous guettent, madame, de 1935, où c'est une toile d'araignée sur un visage de femme.
Man Ray,
je veux dire, on pense pas à autre chose qu'une mauvaise publicité pour une crème anti-ride, alors que quand on voit Les larmes de verre de Man Ray, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne pense à une publicité pour un mascara. Je veux dire, c'est une photographie qui est autonome. Par ailleurs, l'engagement me semble légèrement surjoué dans l'exposition, et si c'est vrai que cette période d'extrême gauche est aussi importante, je pense que les commissaires auraient dû dire dans l'exposition et au moins dans le catalogue que toute la deuxième partie de sa vie c'est une bigote invétérée qui voulait tout léguer à sa paroisse, et puis finalement elle a peut-être pas rédigé de testament, et surtout une antisémite notoire. Je renvoie nos auditeurs au texte de Marcel Fleiss, le galeriste de la Galerie 1900-2000, qui est disponible sur internet, sur le site de La Règle du Jeu, où il raconte la fascination, enfin l'admiration, la dévotion de Dora Maar quand il la rencontre dans les années 80 pour Mein Kampf, et le fait qu'elle lui demande avec insistance s'il est juif, en disant qu'elle ne vendra pas ses photographies à un juif.
Corinne Rondeau.
Oui, non, mais tout le monde le sait. Ça a été dit sur France Inter il y a 3 semaines déjà, donc c'est bon. Je veux dire, c'est pas du tout surjoué dans l'exposition. Ça n'y est pas. C'est dans le catalogue. Son engagement de gauche déjà.
C'est une section de l'exposition. Je suis désolé, Corinne.
Attendez, je veux dire, il y a très peu.
Il y a le film de Monsieur Lange dans les photographes de plateau. Non, c'est une salle. Mais ne dites pas que c'est pas dans l'exposition.
Dans l'exposition, ça ne représente pas un engagement. C'est juste un trait. Et ce n'est qu'un trait, mais son antisémitisme est aussi, je dirais, celle qui a tout perdu et qui est d'une cette femme est acariade. Cette femme a tout perdu. Je veux dire, c'est comme son œuvre. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, les antisémites, il y en a partout. Il faut le dire aujourd'hui parce que sinon, qu'est-ce qu'on serait? Mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut pas tout mélanger. Que les gens soient mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont antisémites. Ils sont antisémites. Il faut pas non plus mettre tout dans le même sac, là, parce que.
C'est pas ce que je dis. Non, que l'exposition et le catalogue donnent une section entière à son engagement politique sans dire ce qu'il a été.
Mais c'est pas un engagement, je veux dire, c'est juste. Non, mais
c'est pas moi qui le dis, Corinne, c'est l'exposition et le catalogue.
C'est vraiment marqué comme ça dans l'exposition, comme un engagement.
Il y a une salle entière, il y a marqué engagement, en fait.
Ah oui?
La troisième salle, c'est engagement. Oui, oui, oui.
D'être allé avec une lunette
noire. Non, j'ai lu dans le catalogue.
Non, il y a une salle qui s'appelle engagement.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui. Ouais, c'est vrai.
Avec un S.
Oui, mais bon.
Ça veut dire qu'il y en a plusieurs.
Non,
ça répond à la critique de Stéphane.
C'est très peu.
Ils sont divers.
Ouais, bon, bref.
Bon, on termine là-dessus parce que l'heure tourne.
Oui, non.
Nous parlions de Dora Maar. Une exposition à voir. Vous avez remarqué qu'elle n'est pas très longue. Elle s'arrête le 29 juillet. Donc c'est pas une dimension XXL au niveau de la durée au moins. C'est au Centre Pompidou. Ensuite, elle voyagera, cette exposition, puisqu'elle ira à la Tate Moderne à Londres du 19 novembre au 15 mars. Et puis elle ira au Getty Museum de Los Angeles du 21 avril au 26 juillet 2020. On verra comment elle sera reçue en Angleterre et en Californie. Le Centre Pompidou a bien sûr édité un catalogue de l'exposition. À suivre dans la dispute, on va à aller à la BNF, à la galerie Tadeusz Ropak et chez l'éditeur Galilée.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Manuscrit de l'extrême, prison, passion, péril, possession, on dirait un feuilleton de l'été, pour le sous-titre, alors qu'il y a beaucoup mieux que ce titre, c'est-à-dire voir l'exposition qui se tient elle, jusqu'au 7 juillet à la Bibliothèque nationale de France. Elle présente 150 manuscrits qui ont pour point commun d'avoir été écrits dans des contextes d'enfermement, de folie, de passion, aux côtés de feuilles rédigées par Napoléon Ier, Alfred Dreyfus, Guillaume Apollinaire ou Nathalie Sarraute, celles d'hommes et de femmes dire ordinaires, des soldats, des prisonniers, des internés. La commissaire d'exposition, c'est Laurence Lebras. Première impression sur cette exposition, Corinne Rondeau.
Bouleversante exposition.
Stéphane Coréard.
Oui, c'est un choix partial, mais extrêmement émouvant.
Sally Bonne.
Moi aussi, je voulais dire bouleversante.
Donc voilà, je le redis. Vous avez le droit, bouleversant. On va écouter, comme on peut le faire d'ailleurs dans l'exposition, quelques lettres de Paul Celan.
Paul Celan. Lettre à sa femme, Gisèle Celan l'Étrange. 23 avril 1966. Le 23 avril 1966, Paul Celan envoie 5 lettres à sa femme. Interné depuis le 28 novembre 1965 après avoir tenté de la tuer avec un couteau lors d'une crise de délire, c'est dans la puissance de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre que Celan trouve la force de continuer à vivre.
23 avril 1966. Ma chérie, demain, sans doute, commencera la cure à l'insuline et je vous écris pour vous dire que je suis depuis hier un peu anxieux. J'ai même pensé ce matin, après une nuit pas trop bonne, d'aller trouver les médecins pour leur parler, mais je ne le ferai pas. Il n'y a pas de repli, dit René Char sur cette pierre qu'il nous a donnée, mais une patience millénaire. Il y a beaucoup de permissions autour de moi et j'enregistre bien entendu tous ces départs. Monsieur Sébille, qui part aussi, mettra cette lettre à la poste. Enfin, j'essaie encore, mais j'ai besoin de revivre parmi les humains, avec vous et notre fils. Embrassez Éric de ma part. Je vous embrasse, Paul. Deuxième lettre, samedi 23 avril 1966. Ma chérie, ta lettre du 21 me parvient. Je ne sais point te remercier. Oui, je vais vers la guérison. Tout ce que tu dis de l'exposition me réjouit. Et je sens grandement nos cœurs qui, dans le calme, se parlent, parlent l'un à l'autre. Tu me nourris de lumière, je le sens très fort et j'en vis. À jeudi, Paul. Samedi après-midi, 23 avril 1966. Ma chérie, on m'a monté peu après ton passage ta lettre de vendredi soir. Comment t'en remercier? Oui, il y a notre amour et le courage de notre amour. Et Éric, ce grand de l'amour. Je t'aime, ma chérie, pour toujours. Je vis, j'attends, je vis de cette attente. De tout mon cœur, Paul. Samedi soir, 23 avril 1966. Mon amour, ma lumière, Calypte. Ta lettre, égale à toi-même, me remplit le cœur. Je le fais voyager autour et vers tous mes rivages. J'en inonde le monde, le tien et le mien. Je jubile, douloureusement, dans la vérité. Comment ai-je donc été aveuglé, alors que si près de moi, ton amour, encore et encore, me donnait la preuve rayonnante de celle pour qui mon propre cœur, en chemin, venant de loin, reste engagé. Je te vois, ma chérie. Je t'écris ici quelques lignes venues d'un monde nôtre, le nôtre. Schreib dich nicht. Zwischen die Welten, vertrau der Trennenspur und lerne leben. Ne t'écris pas entre les mondes, fie-toi à la trace des larmes et apprends à vivre. Paul.
Voilà, c'est l'un des enregistrements audio que propose cette exposition, puisqu'on peut donc aussi en écouter certaines de ces lettres. Mais Stéphane Corrière, comment est donc présentée cette exposition à la BNF ?
Alors l'exposition réunit une petite centaine de manuscrits du XVIIe au XXe siècle, qui ont tous pour point commun d'avoir été rédigés à un moment crucial de leur existence par des artistes, des écrivains, des personnalités politiques, historiques, mais aussi des anonymes. Donc des œuvres d'art, des dessins, des poèmes, mais aussi des courriers, des journaux intimes, dont vous l'avez dit Arnaud, certains sont heureusement disponibles aussi sous leur forme sonore. La scénographie est un carrefour, enfin le visiteur se retrouve à un carrefour, il a le choix entre les quatre sections de l'exposition, ces homophonies en paix que vous avez énumérées, c'est-à-dire la passion, l'amour, le sexe, le deuil, le péril, la maladie, la fin imminente, la prison. Et la possession, les troubles psychiques, le spiritisme. Les textes ne sont pas retranscrits intégralement dans l'exposition, ce qui est heureux finalement, puisque ça contribue à mettre l'accent sur la matérialité des objets qui sont présentés. Alors évidemment, le plus souvent, c'est de l'encre sur papier, des manuscrits. Mais il y a aussi, et c'est surprenant, d'autres supports. Il y a du tissu, l'écorce de bois, notamment, c'est la plus ancienne lettre, de Joseph Poncet de 1647. Et même des écritures sur des meubles, une chaise au siège de la Gestapo, entre 42 et 44, par un résistant qui a été interrogé. Puis parfois, c'est d'autres substances que l'encre. Il y a le sang, une lettre de Latitude, prison à Bastille, 1761, du rouge à lèvres, une lettre de Doris Aucazet à Georges Hunier, voire le vide, puisqu'il y a même un billet clandestin qui a été tracé dans du papier par une épingle, à la prison de Vesoul, en janvier 44. La plupart, de la même manière, sont des manuscrits adressés par la poste, des lettres, mais il y en a qui suivent des chemins de traverse un peu plus curieux. Il y a des écrits qui sont placés dans des fonds de boîtes alimentaires, par exemple les messages clandestins pendant la Deuxième Guerre mondiale d'Émilie Tillion. Il y en a qui sont jetés d'un train qui part en déportation. Ils sont presque tous écrits à la main, sauf, et ça c'est une des surprises de l'exposition, le texte dicté à la paupière par Jean-Dominique Bobby en 96, vous savez, qui a écrit son livre. Exactement. L'exposition plonge dans la nostalgie, un temps révolu, le temps révolu de l'écriture manuscrite. Et je dois dire que d'ailleurs, c'est une des surprises de l'exposition pour nous visiteurs, c'est qu'on a beaucoup de mal à déchiffrer les écritures. Je pense qu'on est beaucoup moins habitués que nos aînés.
Corinne Rondeau, à présent, pour entrer dans cette dispute véritablement.
Oui, c'est une exposition qui n'est pas très grande, mais qui est très... On y passe beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps d'abord parce que on l'a fait entendre, on peut écouter des lettres, et plus que ça, puisque évidemment on n'a pas toujours l'œil aguerri pour le lire. Donc en fait, ce qui est beau dans cette écoute notamment, c'est que vous êtes autant présent de cette lettre du dernier moment pour certains. Donc c'est très émouvant parce que la voix, c'est aussi l'absence, cette voix qui revient, c'est aussi faire, je dirais, ça nous rend présent de plus fortement encore à l'exposition, indépendamment de ce qu'on peut y lire. Ce qui est beau aussi dans cette exposition, c'est que le manuscrit, on se dit tout de suite, oh là, les manuscrits c'est toujours pareil, c'est des gens qui vont écrire. En fait, il y a la singularité de chaque corps, de chaque situation. Vous avez évoqué la chaise, de ceux qui sont torturés sous la chaise, écrire. Il y a des choses qui reviennent quand c'est des personnages qui sont plus connus. Sarotte, qui par exemple, 2h du matin, c'est le moment où le mari de Sarotte décède et elle barre tout ce qu'il y a sur les deux autres pages, ce qui est très beau parce qu'il y a quelque chose de sa propre littérature qui rentre dans ce petit détail et qui fait tout. Moi, j'ai été très, très, très touchée par surtout Péril ni possession ni passion, donc Péril, prison, voilà, qui sont les points où je dirais où la vie est à l'extrême de ce qu'elle est. Avec parfois beaucoup d'énergie, de vitalité, d'intelligence, de pertinence, que ce soit ces deux sœurs qui vont jeter des papiers écrits toujours de la même manière, nous allons bien, c'est la fin, nous t'embrassons, petit papa chéri, et pensez à ceux qui vont récupérer ça, et qui vont l'amener et que c'est archivé. Ou ce jeune garçon qui va être fusillé, résistant, qui va faire une boule du papier où il a écrit écrit ces derniers mots, et se dire, ben voilà, un papier froissé à un endroit, c'est toute une histoire, c'est toute une vie, mais c'est aussi l'histoire à l'intérieur de ces choses-là. Et la beauté de la conservation et de l'archive, c'est que, ou même dans la passion, il y a ces petits mots de cette jeune, de cette femme qui est amoureuse, qui écrit des petits mots tout le temps, déchirés à des encres de différentes couleurs. Et c'est beau parce que c'est rien, c'est des bouts de papier. Évidemment, il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes, comme l'attitude qui est créée avec son sang, puisqu'il a pas. Et il faut ouvrir une boîte pour le voir, puisque la lumière peut dégrader les choses. Et puis il y a Émilie et la mère de Germaine Tillion, c'est des choses qui sont absolument sidérantes. Et le petit mot de Marie-Antoinette, qui n'était pas une reine, mais une mère.
Salut Bonne.
Oui, alors ce qui est bouleversant, c'est effectivement qu'on traverse l'histoire, la grande histoire évidemment, puisque on va de alors beaucoup de documents proviennent de la première et surtout de la seconde guerre mondiale, notamment dans la section prison. Et donc on est face à la grande histoire, mais aussi à une multitude de petites histoires, notamment dans les sections un peu moins importantes en termes de volume que sont Passion et Possession. Ce qui est particulièrement bouleversant, c'est qu'on est toujours dans cette urgence absolue, quelles que soient les conditions en fait, dans lesquelles ces textes sont écrits, et que l'urgence, on s'en rend compte à un moment donné, c'est celle d'établir un lien ou de rétablir un lien. Et au fond, aucun de ces mots, de ces textes, de ces lettres, ce sont toujours des adresses, même si ce sont des textes qui sont, pas le journal, je pense, le journal de Marie Curie, par exemple, qui commence son journal à la mort de son mari et qui, en fait, s'adresse à lui parce qu'il est parti le matin, qu'elle lui a pas parlé gentiment, c'est ce qu'elle raconte, et puis qu'elle savait pas qu'elle allait pas le revoir. Donc elle s'adresse à lui en lui disant, je t'ai vu arriver, puisqu'on lui ramène le corps, elle décrit son visage ensanglanté, elle décrit l'os parce qu'il a pris un bus ou je sais pas, un tramway, etc. C'est absolument bouleversant. Mais, donc c'est systématiquement, alors on l'a évoqué rapidement, mais la section prison et effectivement ces lettres de jeunes résistants, un lycéen qui a 17 ans et qui on autorise à écrire une dernière lettre la veille de son exécution et qui écrit d'une écriture qui est très enfantine. C'est-à-dire il écrit comme un enfant et on lit ça, c'est un crayon de papier, et il écrit à son père, mon grand chéri, ne t'inquiète pas, etc. Et au fond, c'est des lettres au père, aux mères, aux frères, aux sœurs, au sens filial ou métaphorique. Et donc, il y a le texte vient là, en fait, pour fabriquer du lien et fabriquer cette espèce de continuité comme ça dans la distance, qu'elle soit physique ou temporelle. Et ça, c'est absolument bouleversant.
Stéphane Coréard.
Oui, ce qui est très émouvant aussi, c'est un peu ce que je commençais à dire, c'est la matérialité même, parce qu'il y a le texte, effectivement, qui est toujours très important, notamment dans les circonstances historiques, mais il y a aussi le hors-texte, le sous-texte ou le sur-texte presque, parce que vous parlez du journal de Marie Curie, et il y a la trace de ses larmes quand elle écrit justement sur l'accident et la mort de son mari. Et ça, rien que ça, finalement, on n'a pas besoin de lire le texte, déjà c'est poignant. Nathalie Sarraute, effectivement, de la même manière, elle l'entoure juste 2h du matin comme ça, d'un cadre très nerveux, comme effectivement est son écriture. Et ça, c'est magnifique, et c'est au-delà du texte, effectivement, c'est l'objet lui-même. Il y a aussi je connaissais pas ça mais Guyota au bord du coma, comme ça, qui où le texte s'effondre en fait, exactement à l'image de sans doute de sa santé, ou la lettre, ça on la connaît d'Antonin Artaud Hitler, qui est brûlé comme un sort. Et puis il y a aussi à Jersey, les expériences de spiritisme de Victor Hugo, où ils attachent le crayon au pied du guéridon, et c'est le guéridon lui-même qui trace les lettres. Donc écouter les textes, c'est déjà très très fort, lire leur retranscription, c'est également très fort, mais voir les objets, c'est là où vraiment ça prend tout son sens, de faire une exposition de manuscrits, parce que c'est au-delà du texte, et c'est même au-delà de la reproduction, de ce que le catalogue peut donner l'équivalent. Il faut vraiment aller voir l'exposition.
Oui, parce que le catalogue, c'est vraiment un prolongement ou une façon de se remémorer ce qu'on a vu dans les salles, parce que c'est vrai que ça peut paraître étrange, peut-être, oui, à certains de nos auditrices et auditeurs, de dire aller à la BNF pour voir des lettres écrites, alors certes dans des conditions extrêmes, le titre n'est peut-être pas très bien choisi, c'est les bonnes, vous voulez dire ?
Oui, non, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à lire. J'ai passé plus de 2h30, je crois. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à lire, et paradoxalement, le contexte en fait de ces modes d'écriture ne sont pas forcément donnés. Oui. Par contre, le catalogue, il est là pour accompagner véritablement l'exposition. Donc c'est un vrai pendant qui est aussi très
vraiment utile. Nécessaire.
Stéphane Correa. Je voudrais juste te dire pour nos auditeurs qu'il n'y a pas que du drame. Chaque section, évidemment, si c'est thématique, est quand même dominée par une période historique. Péril, c'est la Première Guerre mondiale. La prison, c'est, on l'a dit, la Deuxième Guerre mondiale. Mais la passion, c'est plutôt le surréalisme et c'est jeu érotique. Et je voudrais dire qu'il y a quand même notamment plusieurs lettres de femmes très libres, très joyeuses, très érotiques et je trouve très réjouissantes. Ça, c'est une section un peu plus légère.
Oui, parce que possession, c'est moins drôle, hein, tout de suite. Vous voulez dire encore un mot, Corinne Rondeau ?
Non, mais la grande ligne aussi des dessins des enfants des yeux, qui est quand même, d'un coup, cette couleur qui apparaît, cette durée aussi, cette constitution qui est assez bouleversante, je trouve, pas parce que c'est des dessins d'enfants, c'est parce que c'est aussi, toute une histoire à l'intérieur de ça. Et puis, je trouve que chaque dessin, écriture, chaque forme que ça prend, ce sont des corps encore là. Et c'est ça qui est très très beau. C'est toujours de la vie. C'est bouleversant, pas parce que c'est de la douleur, parce qu'il y en a beaucoup, mais parce que ce sont des corps. Et ce sont des êtres qui tiennent debout jusqu'au bout, avec une dignité qui est absolument remarquable et qui nous donne envie de l'être à notre tour.
Une belle conclusion. Sur cette exposition qu'on vous invite vraiment à aller découvrir, manuscrit de l'extrême passion, non, prison, passion, péril, possession, c'est dans cet ordre-là, les 4 P, jusqu'au 7 juillet à la Bibliothèque nationale de France, qui a donc aussi édité le catalogue. Donc il faudrait pouvoir d'ailleurs parcourir les salles, peut-être avec le catalogue à la main, pour avoir plus de précisions. Ben, ça prévoyait d'y passer la journée, au moins. C'est l'heure du coup de cœur ou du coup de griffe, ça dépend des semaines. Non, c'est plutôt des coups de cœur hein, chez nos critiques qui aiment aimer. Et là, c'est Corinne Rondeau qui s'intéresse à un livre intitulé « L'écriture du réel, Baudelaire et le réalisme sculptural » d'Arnaud Bux chez Galilée.
Oui, mais il faut savoir aussi que Arnaud Bux a écrit « Écrire le regard esthétique, la modernité en question ». Et en fait, c'est une suite. Alors, le précédent en 2005 ou 2010, je ne sais plus trop, 2010 je crois, était chez Hermann. Et là, c'est Galilée. Alors, c'est intéressant, la première partie du livre, puisqu'on va dire qu'il est grosso modo, il y a plusieurs chapitres, mais il est divisé en deux. Il y a tout un rapport qui est obsessionnel chez lui, il a raison. C'est comment penser la poétique dans la période moderne, comme l'articulation, l'esthétique et de l'épistémologie. Et en fait, il va se servir de la photographie, le daguerréotype, et voir en fait comment la question de la réalité va être prise en charge par un discours scientifique. Et que la photographie, d'abord, elle est traitée comme de la peinture, mais en fait, c'est le discours scientifique qui va avoir un effet très très fort, à savoir que la nouvelle ère moderne, c'est pas du tout avec la photographie, ça va pas être du tout reproduire le monde tel qu'il est, mais c'est produire du réel. Et donc, en fait, Arago conduit la photographie, le début de la photographie, vers une sorte de piège qui est le piège de la transparence. Alors, toute la première partie du livre est tout à fait formidable parce qu'elle pose vraiment des vraies questions. À partir du discours, puisqu'on travaille sur les discours, hein, notamment, et très fortement, et il est en train de nous donner quelque chose à penser, nous, du côté de du regard, de la représentation aussi, à savoir, ben, on perçoit la réalité là où il n'y a qu'une image. Et donc Arnaud Bux finit par nous dire, en démontrant, hein, que en fait, avec la photographie, on ne voit plus l'image ou on ne la voit pas. Donc en fait, il y a un point aveugle de notre rapport au monde qui commence avec ce glissement du discours vers un rapport scientifique et Arago sur la photo. Autrement dit, notre réel à partir du 19e est conçu sur une structure aveugle. Et ça, je trouve ça particulièrement stimulant. Et lorsque, par exemple, on se sert de la phrase « L'homme sans l'univers »,« L'univers sans l'homme », Thomas Schlesser, qui a été un gros livre, ben ça serait bien de le reprendre avec le livre de Buch, parce qu'il peut nous parler aussi d'autres choses, c'est-à-dire des paradoxes de la modernité, à savoir ce renversement qui se produit qu'on ne voit pas. Et en même temps, alors évidemment, il y a un gros corpus sur la question du réel et de l'image, du point de vue de la littérature, c'est-à-dire Philippe Ortel et la photographie et la littérature, mais Jonathan Crary sur les questions d'épistémologie et scientifique avec la question d'optique du 19e siècle, bien sûr, c'est très encadré, il n'est pas nouveau, enfin, c'est pas une révélation, je dirais, mais la précision, le travail de lenteur qu'il a à nous faire progresser à travers des paradoxes de la modernité sont extrêmement stimulants sur cette première partie. Alors, je suis un peu plus déçue sur la seconde partie concernant justement l'écriture scripturale, puisqu'en fait, ce qu'il va démontrer avec Baudelaire, c'est que Baudelaire, c'est celui qui va vouloir massacrer le réalisme. Cette question de la réalité, donc, il démontre, notamment avec un poème, le paysage, à l'émeute, enfin, le paysage, cette manière de dire, en fait, il va y avoir une sorte de miroir ou d'écran qui va tomber, et c'est dans le poème, hein, l'émeute, tempêtant vainement à ma vitre ne me fera pas lever le front de mon pupitre. Et en fait, c'est comme ça que Courbet l'aura peint avant et le paysage, ce poème, vient après. Et ce que démontre Busch à l'intérieur de ce travail, c'est tout le caractère du monde qui s'opacifie et cette volonté de trouver une subjectivité, puisqu'en fait, elle est balayée par Arago, puisque c'est un monde objectif qu'on veut. Et là, d'un coup, c'est construire une réalité mais subjective, c'est-à-dire tout le travail de l'imagination, l'allégorie, l'abstraction et ce que Baudelaire appelle l'autre monde. Donc en fait, c'est l'écriture qui devient elle-même une réalité. Voilà. Et donc j'invite à lire, même si je pense qu'à la fin, il y a un nouveau livre qui devrait venir.
Dans une dizaine d'années, donc si on suit le rythme d'Arnaud Bux. Voilà. L'écriture du réel, Baudelaire et le réalisme scriptural. Hein. C'était mal noté sur mon papier, scriptural. Aux éditions Galilée.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Dernière exposition à notre affiche, John Cage, Ryuanji, c'est jusqu'au 10 juillet à la galerie Thaddeus Ropack dans le Marais. Avant d'expliquer de quoi il s'agit, je vais tout de suite vous demander un sentiment sur cette exposition. Stéphane Coréard.
Ah ben je trouve que c'est une merveilleuse introduction à une œuvre clé du XXe siècle.
Sally Bonne.
Une exposition exigeante, méditative et minimaliste.
Corinne Rondeau.
Bah, c'est mieux quand il n'y a pas de spectateur qui ne pense qu'à parler du papier des dessins.
Écoutons Ryuanji. Qu'est-ce qu'on entend ? Se demandent nos auditrices et auditeurs. Bon, on entend du John Cage, qu'est-ce que vous croyez ? Puisqu'on parle de son exposition, en l'occurrence qu'on vient d'entendre, a été présentée à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin le 22 juin 1995. Mais ça, les bonnes, qu'est-ce qu'on peut voir à la galerie Thaddeus Ropack ?
Alors, l'exposition se situe en haut de la galerie, donc on monte un escalier métallique et on arrive sur un plateau qui est en fait une première salle. Il y a deux pièces, en fait, où se situe le travail, qui sont séparées par une sorte de long couloir dans lequel on trouve une grande table sur laquelle il y a 11 des 170 dessins de la série Ryuanji. Dans les deux salles adjacentes, il y a en fait une photographie, dans chacune des deux, une photographie, une reproduction en fait en noir et blanc, l'une de John Cage qui se trouve sous une cloche et qui est accompagnée du pianiste David Tudor, dont il faut rappeler que c'est lui qui a joué, interprété la pièce 4 minutes 33. Et dans l'autre photographie, dans la deuxième pièce, c'est on voit de dos John Cage assis devant le jardin zen du temple Ryuanji à Kyoto. Et dans ces deux pièces, quatre enceintes, enfin deux enceintes dans chaque pièce, qui diffusent de manière aléatoire sept des compositions qui elles aussi se nomment Ryoanji. Cette décomposition qui sont en fait des glissando, un petit peu, on vient de l'entendre d'ailleurs, des glissando de flûte octobasse, de trombone, de contrebasse, et qui sont ponctués par des percussions et qui en fait reprennent le geste même du dessin, qui sont les dessins, ce sont en fait des dessins au crayon qui sont fabriqués, en fait constitués de pierres, de 15 pierres qui représentent ou qui reprennent les 15 pierres du jardin zen dont s'est inspiré John Cage. Donc les 7 compositions sont entrecoupées de 15 minutes de silence. Il y a aussi un jeu alors sur évidemment sur la numération dans le travail de John Cage. Donc là il y a les 15 minutes de silence ponctuent ces 7 compositions qui sont diffusées de manière aléatoire et on voit donc sur les dessins le jeu à partir des 15 pierres qui sont entourées, enfin qui, dont les dessins sont faits de contours de ces pierres.
Mais sans 15 minutes de silence avant que Stéphane Correa n'intervienne, je crois que ça ne va pas être possible. Non, c'est uniquement une question de timing, hein, c'est tout. Stéphane, sur cette exposition de John Cage qui vous a réjoui donc.
Oui, parce que pourquoi je disais que c'est une merveilleuse introduction, parce que John Cage est un artiste très important, son œuvre est au confluent de Fluxus et du minimalisme, c'est un acteur essentiel de la pédagogie du Black Mountain College, où on le considère généralement comme l'inventeur des happenings, des performances, avec notamment Merce Cunningham et Robert Rauschenberg. Et il s'intéresse à la philosophie bouddhiste zen à partir du début des années 50. Et ce jardin minéral de Ryoanji, qui est un jardin, donc c'est le temple du repos du dragon, c'est un jardin totalement minéral avec du sable et effectivement 15 enclaves en mousse dans lesquelles il y a des pierres qu'on ne peut jamais voir toutes à la fois et qui sont le sable est balayé chaque jour par un moine. Et alors qu'on suggérait à John Cage que ces pierres avaient été placées de manière extrêmement savante, mathématique dans le jardin, lui a des doutes et pense qu'elles ont été mises là au hasard. Et c'est pourquoi ce jardin est complètement un résumé de l'œuvre de Cage et de la philosophie du zen qui ensuite a déterminé toute sa production avec notamment son instrument principal, le livre du Viking, hein, le livre des transformations qui servait à John Cage à décider de beaucoup de processus dans son travail, justement hors de toute décision personnelle, et effectivement qui réunit son œuvre graphique et musicale à travers trois dimensions principales, le silence ou le vide, suivant qu'on se place dans l'un ou l'autre champ, le hasard, et une forme de rapport au concret, c'est-à-dire le réel, dans l'appréciation perceptive de ses qualités sensibles. Et c'est ce qu'on voit dans ces dessins qui, effectivement, Sally Bonne a commencé à le dire, sont réalisés à partir avec 15 pierres, dont il fait le contour, en fait, de manière extrêmement libre, dans une feuille de papier japonais, qui a toujours la même dimension pour les 170 dessins de la série. Et c'est très important, avec une mine de graphite, qui utilise tout l'éventail des possibilités de dureté de cette mine de graphite, puisque ça va du 6B au 9H, c'est-à-dire du plus dur au plus tendre, et ça donne en fait une infinie variation à ces dessins qui ont été débutés en 83, en fait à la suite d'une commande de l'éditeur André Dimanche pour la traduction française de son livre des champignons. Et ce qui est beau là aussi d'ailleurs, c'est que en fait c'était une collection d'André Dimanche, où tous les livres avaient cette couverture en craft et la collection s'appelait Ryoanji. Et c'est ça qui donne à Cage l'idée de formaliser en fait son rapport avec ce jardin. Et la couverture, évidemment, lui fait penser au sable et il trace les silhouettes, les fantômes de ces pierres.
Corinne Rondeau, regarde sur cette exposition à la galerie Tadeusz Ropak.
Ben, écoutez, oui, j'aime beaucoup ces dessins. On les avait déjà vus dans une exposition au Palais de Tokyo. C'est l'exposition Parreno, je crois qu'il en avait accroché avec Merce Cunningham. C'était très beau, donc j'étais très heureuse d'en revoir. C'est moins simple d'écouter la musique quand les gens sont trop bruyants dans l'exposition. Ça m'a beaucoup gênée. Mais j'aime beaucoup ces dessins de pierre parce que pour moi, c'est pas du tout des contours, c'est vraiment des contacts. C'est un contact de la mine avec la feuille, comme on fait un son, en fait. Et ce qui est assez beau, c'est que comme l'apesanteur n'est pas, ça pourrait être, si on ne le sait pas, on ne voit pas des pierres. On voit simplement des formes oblongues, parfois beaucoup plus irrégulières, avec des tremblés, des chevauchements, des superpositions lignes. Donc on ne voit plus de formes quasiment circulaires qui pourraient nous faire penser à l'image d'une pierre. Donc c'est vraiment la pierre méditée.
dans la méditation. C'est-à-dire, elle n'a plus du tout sa pesanteur, elle n'est juste que cette ligne contact qui est comme on peut faire un son. On peut faire d'un contact un son, ce qu'on entend parfois dans les morceaux qu'on entend, c'est-à-dire il y a des grelots ou des claquements de bois qu'on entend dans l'expo. Donc c'est vraiment un contact entre des matières, un pied qui cogne avec un grelot, ça m'a fait penser à ça, quelque chose. Mais vous savez, dans la Revanche des Indiens Morts, qu'est-ce que je disais, un son n'a pas de jambes pour rester debout. Ben, on va dire que ces séries de dessins, c'est vraiment ça, c'est des séries de dessins. Et en même temps, ce travail qui est aussi de la méditation, qui revient à ce jardin zen, c'est et être à l'exposition. C'est pour ça que les gens m'ont beaucoup gênée, à parler trop fort, à être pénible, très pénible. C'est rester immobile tout en étant en mouvement. Et c'est ça un son. Et ces dessins sont ça. Ils ont ce rapport totalement méditatif. Et qui renvoie aussi à cette manière de n'être jamais trop près du dessin, toujours dans une sorte d'éloignement, comme on doit rester dans la méditation, qui est aussi d'être loin des choses, mais au présent absolu, d'un son, d'une ligne, de pas grand-chose, mais intégralement là. C'est la raison pour laquelle les gens m'ont beaucoup agacé.
Oui, alors je crois que les gens vous ont beaucoup agacé, ouais. Donc, finalement.
Mais j'ai besoin de beaucoup de vacances.
Il faudrait effectivement, pour ce type d'exposition, presque le faire de façon solitaire, il faudrait qu'il y ait un parrain, mais il faut quand même rendre grâce à la galerie Tadeusz Ropak qui fait ça en accès libre, rappelons-le, hein, les galeries, c'est gratuit, donc il faut jamais hésiter à pousser les portes des galeries, ça les bonnes.
Alors le son est effectivement relativement bas aussi de ces compositions, alors pour une raison purement pragmatique, c'est qu'en fait il y a des gens qui travaillent à l'étage de l'exposition et que entendre les compositions de John Cage toute la journée, c'est un petit peu difficile. Cependant, je suis d'accord que moi aussi ça m'a gêné, en fait, les gens qui l'escalier métallique fait beaucoup de bruit, les gens discutent, donc ça gêne. Et en même temps, il y a une sorte de logique qui correspond au travail de John Cage, qui est aussi d'intégrer les éléments extérieurs à l'intérieur de ce vide. Donc on est dans une salle vide avec ce son qui invite à une forme de méditation, et au fond les sons extérieurs correspondent à cette introduction du hasard et de l'aléatoire, puisque tout le travail de John Cage se fonde sur cette correspondance entre notamment le hasard et le silence, puisqu'il associe le hasard et le silence. Il y avait d'ailleurs un très beau livre d'une jeune philosophe qui s'appelle Sarah Troche qui évoquait cette question du hasard comme une méthode, qui avait été publiée aux presses universitaires de Rennes, où justement elle avait travaillé sur la figure de John Cage. Donc l'exposition elle rencontre aussi, et le terme de chevauchement ou de superposition que Corinne a évoqué pour les dessins rencontre aussi la manière dont il a travaillé, puisque les sons qu'on a entendus dans les compositions en fait proviennent du dessin, c'est-à-dire que le glissando ou les glissandi suivent la ligne en fait du tracé autour de la pierre. Donc il y a ce jeu aléatoire de composition qui s'inscrit dans une forme de correspondance entre le tracé du dessin et le son. Qui suit finalement le mouvement de la ligne. Donc il y a aussi ce que permet de montrer cette exposition qui est à la fois très, on va dire, délicate plutôt, parce qu'elle n'est pas légère, elle est plutôt délicate et minimaliste, c'est de faire apparaître ce travail qui est celui de John Cage, de correspondance, où il y avait cette formule que j'aime bien d'Adorno qui parle d'effrangement des arts, c'est-à-dire l'endroit en fait où se rencontrent, en l'occurrence là, le travail du dessin et le travail du son.
Allez, un dernier mot, Stéphane Corriard. Pas gêné par les visiteurs, vous?
Ben moi, j'y suis allé le matin et j'étais seul dans l'espace d'exposition. Je voudrais juste souligner que la galerie fait un très bon travail aussi dans le catalogue que je vous conseille, qui lui coûte 20 euros néanmoins. Mais on verra des choses intéressantes, notamment des dessins de partitions, justement pour Yanji, qui font un très beau contrepoint au dessin de l'exposition. Il y a aussi une photo pour les fétichistes des pierres et des crayons utilisés par John Cage pour réaliser ses dessins.
Et ça ne manque pas, les fétichistes, comme chacun sait. John Cage, Rio NG, c'est jusqu'au 10 juillet à la galerie Tadeusz Ropak, le site du Marais, c'est-à-dire la rue de Bellem. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler La question du jeu d'hier au soir, avant de nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: quel film présenté cette année à la quinzaine des réalisateurs dans la même sélection canoise que Zombie Child mettait également en scène le chagrin d'amour d'une adolescente et son recours au rituel vaudou? Et la réponse était Sick 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 d'Alice Furtado.
C'était le prix de la question la plus longue, hein, je crois, de tout le jeu de la dispute. Bravo. À gagner ce soir, des invitations pour un autre film. Un Havre de paix de Yona Rosenkier qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question?
Quel film sorti cette année évoquait, tout comme dans Un Havre de paix, je vais y arriver, les traumatismes de la guerre vécue par de jeunes soldats israéliens?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. À la prise de son, Jacques Hubert. À la réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut bien sûr réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. En compagnie de Lucille Como, Grégoire Leménager, Florent Georgesco, nous parlerons de Un soir au paradis de Lucia Berlin chez Grasset, Pourquoi écrire de Philip Roth chez Gallimard, 15 causeries en Chine de Jean-Marie Gustave Le Clésio et puis un coup de cœur de Florent Georgesco pour Théâtre de résistance de Kim Chi-ha chez Imago.